RPL Radio, ensemble à Lambersart. RPL Radio au plus proche de ses voisins lambersatois avec Ensemble à Lambersart, la matinale dédiée à l'actualité de la commune, ses événements, mais aussi des rencontres avec ceux qui font la ville et la vie de Lambersart. Aujourd'hui, dans Ensemble à Lambersart, nous recevons Thibaut Brancard, un lambersatois avec un parcours un peu atypique dont il va nous parler aujourd'hui. Bonjour Thibaut, vous allez bien ?
Bonjour, très bien, et vous ?
Bah oui, très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on est à distance parce que, où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, là je suis dans une cabane qui se trouve dans le sud de la Norvège, à l'ouest de l'île Hammer, où je suis là avec mes 10 chiens de traîneau et on se prépare à partir vers midi pour aller un peu plus au nord en Norvège parce qu'en fin de semaine on participe à une course qui a lieu donc un peu plus au nord, une grande course qui s'appelle la Fenoul Lopez.
Bon, on parlera de ça un petit peu après. Avant, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez commencé, vous, à vous intéresser justement à la course de traîneau ?
C'est quelque chose qui est apparu dans mon enfance au gré de lecture, hein, en lisant des romans, bien sûr, comme beaucoup d'enfants, Jack London, L'Appel de la forêt, tous les romans qui racontent cette époque de la ruée vers l'or en Alaska et au Canada à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et c'est quelque chose qui m'a, je sais pas, j'en ai aucune idée pour quelle raison, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment totalement passionné immédiatement. Et que ce soit pour la passion de la nature sauvage, des grands espaces, du Grand Nord, etc. Mais aussi la passion du chien et puis de ce rapport incroyable qu'on pouvait créer avec des chiens de traîneau dans cette pratique-là.
Alors c'est assez étonnant ce que vous parlez de cette fascination pour le Grand Nord, mais vous avez grandi à Lambersart. Comment est-ce que vous avez concrétisé ça du coup ? Ici, c'était possible d'avoir ce genre de projet.
Effectivement, tout à fait. Moi, quand j'étais gamin, tout ça n'existait que dans les livres ou dans des films, parce qu'autour de moi, il y avait personne qui avait de chiens de traîneau, qui enseignait, etc. Donc, c'était vraiment, je me suis nourri de ça uniquement. En fait, après avoir lu des premiers romans, j'ai commencé à lire des livres d'expédition, etc. Et j'ai découvert l'univers de Nicolas Vanier, qui est un aventurier français qui a fait beaucoup d'aventure en chien de traîneau, et puis c'était le début d'Internet, il y avait un site Internet avec 4 pages, je lui ai envoyé un email, il m'a répondu une longue réponse, etc. Quelques temps après, on s'est rencontrés, et puis il m'a proposé de le rejoindre sur une grande course de chien de traîneau qui se lançait cette année-là, donc on était à l'époque en décembre 2014, donc en janvier 2005, c'était le lancement de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui est une grande course de chien de traîneau qui a eu dans les Alpes en France. Moi, j'y connaissais vraiment rien du tout en dehors des livres que j'avais pu lire. Donc, j'ai découvert cet univers-là dès la première fois avec des très grands mushers, parce qu'il y avait des mushers venus du monde entier, d'Alaska, etc., dans cette course-là. Donc, j'ai très vite pu confirmer que cette passion-là était autre chose que juste dans les livres. Et en rencontrant des gens comme ça, des grands mushers, j'ai pu très vite discuter avec eux, apprendre beaucoup de choses, et puis de fil en aiguille, aller les rencontrer chez eux, etc. Et puis l'année d'après, j'ai participé à une expédition de Nicolas Vanier qui s'appelle l'Odyssée sibérienne, et pendant laquelle on a traversé la Sibérie du lac Baïkal à Moscou. Moi, j'étais photographe de l'expédition, et c'était une expérience vraiment fondamentale et fondatrice, parce que là-bas, j'ai pu vraiment confirmer que cette passion était vraiment quelque chose que m'habitait. Quand vous vous retrouvez en Sibérie par moins 60 et que vous continuez à aimer ça, bon, c'est qu'il y a un virus.
Oui. Vous avez parlé de musher. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce terme quand on n'y connaît rien ?
Ah, tout à fait. Alors, un musher, c'est simplement un conducteur de traîneau. Donc, c'est une personne qui élève les chiens de traîneau et qui fait du traîneau avec eux. Et c'est un terme qui vient de l'époque des coureurs des bois canadiens, qui étaient les premiers à utiliser, en dehors des peuples autochtones bien sûr, mais qui étaient les premiers occidentaux à utiliser les chiens de traîneau. Et l'ordre de départ qu'ils donnaient à leurs chiens, c'était marche, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de patins sur lesquels ils posaient les pieds, donc il fallait juste marcher, et les chiens s'élançaient. Et les anglophones qui entendaient marche, entendaient moche, et donc ils appelaient ces gens-là des mushers. Voilà.
D'accord.
C'est là que ça vient.
Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous en avez déjà un peu parlé, mais de vous présenter un peu vos chiens, votre équipe finalement ?
Tout à fait. Alors moi, j'utilise des chiens de traîneau d'une race qui est assez méconnue, qui s'appelle le Husky d'Alaska. C'est une race qui est méconnue du grand public parce que les chiens qui sont les plus connus, c'est le Malamute d'Alaska ou le Husky sibérien, avec souvent les yeux bleus. Et le Husky d'Alaska, c'est un chien qui a été croisé à l'époque justement de la ruée vers l'or, avec du Husky de Sibérie, du chien de village indien, des chiens de chasse, etc. même du loup. Et donc le but de cette race n'est pas de fixer un standard avec la forme des oreilles, la forme des oreilles, la couleur des yeux, etc. C'est vraiment juste d'avoir le chien le plus performant possible, un chien qui a un gros appétit, qui a une énorme envie de courir, qui a un très bon poil, etc. Et c'est le chien, c'est la race qu'on rencontre le plus sur les courses de chiens de traîneau, des grandes courses de chiens de traîneau qui ont lieu ici en Scandinavie, en Norvège, et puis en Canada, en Alaska. Et ce sont des chiens qui sont à la fois très rustiques, qui sont capables de vivre dehors dans des conditions très difficiles, mais qui sont en même temps plus proches de l'homme que ne peuvent être les races ancestrales comme les Huskies de Sibérie ou d'autres. Et donc moi j'ai 10 chiens, des chiens de différents âges, j'ai 3 chiens très expérimentés qui ont 8 ans, j'ai ensuite 4 chiens qui sont en pleine force de l'âge qui ont 4 ans, et puis j'ai 3 chiens qui font leur première saison de course, donc qui ont 18 mois, et qui vont pour 2 d'entre eux vendredi prendre le départ de leur première course.
Comment est-ce que vous décririez la relation que vous avez avec vos chiens ?
Ben je dis souvent que en fait il y a pas beaucoup d'humains avec lesquels j'ai vécu des choses aussi fortes que ce que j'ai pu vivre avec mes chiens au travers de cette pratique là quand on fait des courses dans le Grand Nord qu'on est en autonomie complète, qu'on traverse des tempêtes, qu'on voyage la nuit par les températures glaciales, etc. On est vraiment en harmonie complète avec les chiens. On n'a pas de rênes, on n'a pas de fouet pour piloter le traîneau. Les chiens ils courent parce qu'ils ont envie. Et parce qu'ils ont envie, eux, parce que ça leur fait plaisir, mais aussi pour nous faire plaisir. Et ils ne vont que là où on leur demande d'aller, si cette relation est saine et harmonieuse. Et donc, il faut vraiment créer une relation très forte. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai vécu des moments, parmi les plus beaux moments de ma vie, c'est avec ces compagnons-là que je les ai vécus. Donc, ça crée des liens très, très forts entre nous.
Aujourd'hui, c'est une passion pour vous ou c'est aussi un métier? Est-ce que vous arrivez à vivre de cette activité?
Alors c'est pas du tout un métier. Je le fais à un niveau professionnel, c'est-à-dire en termes de la nécessité de maîtriser l'entraînement, la nutrition, les temps d'entraînement, le matériel, etc. Et c'est pas un sport qui est réellement professionnel. Il y a que très très peu de mushers dans le monde qui sont professionnels. Alors j'ai des sponsors heureusement qui m'accompagnent. J'ai des croquettes avec une civette, etc. Du matériel avec une dentiste qui me permettent de faire cette activité-là, mais c'est vraiment pas une activité rémunératrice. C'est un sport, même s'il se médiatise de plus en plus, qui n'est pas rémunérateur en termes de primes de course. Et donc, c'est vraiment une passion absolue. Et il faut vraiment être passionné pour le faire parce qu'effectivement, on y consacre une bonne partie de son temps et une bonne partie de son argent.
Donc aujourd'hui, vous vivez de vos reportages, de vous parler un petit peu avant, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis réalisateur. J'ai une société de production à laquelle je fais de la communication pour les entreprises. Je fais aussi des documentaires. Et j'ai aussi créé une société qui développe des jeux culturels dans des sites historiques. En hiver, je suis essentiellement concentré sur les chiens et sur les compétitions. Et le reste de l'année, effectivement, j'essaie de réunir assez d'argent pour faire vivre ma famille et vivre cette passion. Et ça va, je m'en sors.
Et justement, vous avez une grande échéance qui arrive. Il y a les championnats du monde bientôt. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Moi, ça fait 7 ans que je fais des compétitions de haut niveau, et c'est vrai que je pense pour tout sportif de haut niveau, avoir l'occasion un jour de représenter son pays au championnat du monde, c'est quand même un honneur et une fierté. Donc, j'essaye de me préparer au mieux pour pouvoir obtenir le meilleur résultat dans ces compétitions. Mais c'est effectivement une année particulière par rapport à cette participation au championnat du monde.
Alors justement, comment se passe cette préparation? Combien de temps on se prépare à ces championnats du monde?
Ben là, la compétition, elle va avoir lieu début mars, mais nous, on a commencé les entraînements fin août avec les chiens. Dès que les températures descendent sous les 14 degrés, on peut entraîner les chiens. Alors sur des distances assez courtes au début, on entraîne avec un petit quad dans le nord, au bord du canal notamment, de la Deule, etc., sur des distances au début de saison 5 km, puis ça peut aller jusqu'à 40 km vers mi-décembre. Et puis à partir de mi-décembre, je monte les chiens en Norvège et ils vont y rester toute la saison hivernale jusqu'à mars. Donc ils seront ici dans des conditions idéales de préparation pour s'acclimater. Enfin, là, vendredi, on va faire une course. Pour les chiens, c'est le quotidien, quoi. Ils n'ont aucun problème avec le froid, avec le vent, avec les feux de vif dehors, avec les conditions qu'on peut rencontrer sur la piste. Et cette période d'entraînement qui commence début décembre, elle est très très importante justement pour préparer les chiens à ce qu'ils vont devoir rencontrer pendant les courses. Et effectivement, la difficulté, mais comme pour tout sportif, c'est de c'est de maintenir un état de forme optimal avec bien sûr des hauts et des bas, mais arriver avec des pics de forme au bon moment. Et effectivement, quand on a commencé l'entraînement en août et que l'objectif est en mars, c'est pas forcément simple.
Et alors justement, là, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ?
À l'instant présent, je suis très motivé et très impatient d'aller faire cette première course qui est la Femund Loppet vendredi. Ça va nous permettre une course de 200 km qui a lieu en Norvège, qui va nous permettre vraiment de jauger un petit peu où on en est. Je pense qu'on devrait, je l'espère en tout cas, faire une bonne performance. Et puis après, on sera tourné complètement vers les championnats du monde. Donc moi, j'ai 10 chiens. Je cours en catégorie 8 chiens, donc j'ai à chaque fois une possibilité de choisir entre les chiens. Donc suite à cette course, et puis après que les prochains entraînements qu'on fera avec des entraînements longs, parce que la course sera des étapes notamment de 130 km, je pourrais définir quel est le meilleur 8 au moment du départ. Et je suis très motivé et je suis ambitieux, et on verra selon les conditions de piste, selon le niveau des adversaires. Il y en a certains qui sont très relevés. On verra ce qu'on pourra faire, mais on va essayer de faire le meilleur. Ouais.
Et alors, quand et comment est-ce que l'on pourra vous soutenir ou vous suivre déjà?
Alors, j'essaie de raconter tout ça, toutes ces histoires-là sur Facebook et sur Instagram. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Thibaut Excelsior Machine, et sur lequel on peut suivre toutes mes aventures. Je raconte un petit peu tous les jours ce que je fais. Et après, pendant les courses, il y a un suivi GPS, et puis le suivi de la course qui est organisé par l'événement. Et ça, sont des choses que je mets justement sur les réseaux sociaux pour que les gens qui ont envie de me suivre, de jour comme de nuit, puissent le faire.
Alors ça, vous le faites tout seul ou il y a aussi une équipe, mis à part vos chiens, à qui vous accompagnent lors de ces compétitions?
Alors, dans des compétitions, je suis toujours accompagné de ce qu'on appelle des handlers. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour m'aider à préparer les chiens, à préparer le matériel, etc. Pendant les courses, eux, ils n'ont pas le droit de s'occuper des chiens. C'est vraiment juste le musher qui peut s'occuper des chiens. On part et puis le handler avec le camion va nous suivre de checkpoint en checkpoint. Va nous retrouver. Il pourra nous encourager, etc. Nous donner la nourriture à nous, nous donner de l'équipement, etc. Mais il ne peut pas s'occuper des chiens. Et donc, c'est une assistance qui est quand même très, très importante d'un point de vue, technique et logistique. Mais aussi beaucoup d'un point de vue mental, parce que quand on fait ces courses-là, on dort quasiment pas, on dort peut-être une heure par 24 heures, des courses qui peuvent durer 24, 48, 72 heures. Donc on est vite fatigué avec le froid, la défense physique, le manque de repos. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse nous soutenir, nous relancer, etc., et nous rappeler les objectifs qu'on s'est donnés.
Oui, bien sûr. Bon, alors on vous souhaite beaucoup de courage pour continuer cette préparation, et puis on vous souhaite de la victoire aussi. Et puis on a hâte de vous retrouver à Lambersa pour que vous puissiez nous raconter tout ça. Est-ce que vous avez un dernier message peut-être pour nos auditeurs de Lambersa aujourd'hui?
Je voudrais saluer tous les gens. J'ai reçu énormément de messages de sympathie ces derniers jours, ces dernières semaines, etc., de Lambersartois qui ont pu me suivre, me découvrir, parce qu'il y a eu un article aussi dans le journal municipal, etc. Donc écoutez, je merci pour votre soutien, et puis j'espère que ce que je fais vous inspire à vous lancer à votre tour dans le grand projet.
Très bien. Et écoutez, merci beaucoup Thibaut. Et puis alors, quand est-ce que vous serez de retour à Lambersa?
Je serai de retour à Lambersa après les championnats du monde. J'ai ma famille qui vient me voir bientôt, là pendant 2 semaines, ça va être super. Mais après, je serai concentré sur l'événement et je vais rentrer à la mi-mars à Lambersa. Je serai ravi, si vous le souhaitez, de venir vous voir pour vous raconter tout ça.
Bon, très bien, on se retrouve au printemps alors. Merci beaucoup Thibaut et à bientôt.
Merci, bonne journée, au revoir.
Ensemble à Lambersa.